Bien, nous allons aller donc dans Matthieu chapitre 4 et nous allons regarder trois versets en particulier, les versets 18 à 20. Et je donne lecture. Matthieu 4, verset 18. Comme il, Jésus, marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Puis Jésus continue plus loin, et il rencontre Jean, enfin Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Donc c'est un passage qu'on connaît bien. Et comme beaucoup de passages qu'on connaît bien, il est assez courant de le lire sans vraiment l'écouter, et même au risque d'en arriver à inconsciemment, ou consciemment, mais probablement la plupart du temps inconsciemment, à considérer ce passage comme le contraire de ce qu'il dit. Alors je m'explique. Voilà un peu une situation. On va imaginer un jeune homme qui vient dans une église et il est tout feu, tout flamme. Et il commence à comprendre comment les choses s'organisent et il veut servir le Seigneur. Donc il se dit, mais vraiment, il faut que je devienne un gagneur d'âme. Alors, pour cela, il faut que j'apprenne comment présenter l'Évangile. Donc, il va, d'une manière ou d'une autre, diverses manières, il va arriver à mettre ensemble un genre de système par lequel il peut présenter l'Évangile. Des choses à dire, des choses à ne pas dire, comment dire les choses, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu un premier jeune homme qui est ainsi. Ça peut être des gens moins jeunes. Mais imaginons un autre qui est un peu différent. Alors lui, par contre, il a besoin de se former. Et donc, il va chercher à suivre un cours. Mais de toute façon, pour arriver à un moyen pour présenter l'Évangile de façon à gagner des âmes, parce que c'est comme ça, en étant pêcheur d'hommes, en gagnant des âmes, c'est ainsi qu'on suit Jésus. Alors, on peut dire, mais bon, peut-être on n'est pas comment désireux de devenir un gagneur d'âme en tant que tel, mais on voudrait présenter l'Évangile. Et donc, on va apprendre des manières pour le faire. Et inconsciemment, graduellement, vient dans l'esprit que c'est ainsi qu'on suit le Seigneur. Et comme je dis, c'est une chose qui est très, comment, c'est pas, on désire pas en fait faire quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Non, c'est avec un bon désir, mais au finish, parce que la chair et le monde nous influencent sans qu'on s'en rende compte, très sincèrement, on pense que c'est en gagnant des âmes qu'on sert le Seigneur, qu'on suit le Seigneur. Et en fait, il y a un problème dans cette situation. Dans les exemples que j'ai donnés, des exemples qui sont peut-être un peu artificiels, mais l'un comme l'autre ont appris à évangéliser, entre guillemets, hein, et donc maintenant ils se lancent dans le service du Seigneur, et c'est ainsi, comme j'ai dit, qu'on suit le Seigneur. Le problème, ce n'est pas que le zèle et la sincérité ne sont pas là. La plupart du temps, c'est là. Et il est même possible que la formation ou le système qu'on est arrivé à mettre ensemble soit bon et vrai et selon l'organisation du salut. Une présentation du salut qui se tient debout. Le problème, c'est que finalement, on en arrive à faire le contraire de ce dont parle Jésus ici dans ce passage. Et c'est quelque chose qui, en causant avec un frère il y a quelques mois, ça m'a vraiment frappé. L'homme, l'être humain, finit par se faire lui-même un pécheur d'homme. Et il attend maintenant de voir où Jésus va l'envoyer. Alors, bien entendu, on peut, il y a toutes sortes de manières de décliner ce schéma-là. Mais que dit le Seigneur ici dans notre passage? Et que dit le Seigneur en principe, en fait, dans toute la parole de Dieu? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Ce qui est exactement le contraire de ce que nos deux exemples et tout ce qu'on peut décliner ont fait. Comme la chose est très commune, c'est important pour nous de nous y arrêter et de réfléchir. Donc, ce qu'on va faire ici, de façon à ce que ça ressemble un peu à un sermon, on aura trois parties. Hein, on va regarder le texte et son contexte, et puis on va regarder la signification de suivre Jésus, et puis bien sûr la signification de péché des hommes. Alors, le contexte. Pour commencer, il est important de se rappeler que les situations décrites dans la Bible sont des situations réelles avec des hommes, des gens de chair et d'os. Ce n'est pas des personnages un peu. Bon, dans l'histoire, que dans les exemples que j'ai présentés, là, bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même toute une dimension qui est assez artificielle. Et c'est à chacun de décliner la chose. Mais quand la Bible parle, nous avons des situations qui sont très communes, très normales, très, très réelles. Et ici, Jésus commence son ministère en Galilée, le grand ministère en Galilée. Il prêche, il va à droite à gauche dans les villes, les villages pour prêcher. Et son message, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ce qu'on voit au verset 17, juste avant notre texte. Mais, hier comme aujourd'hui, il faut bien saisir de quoi il parle. Il n'est pas venu, Jésus n'est pas venu simplement pour toucher le cœur des Juifs de son temps, de sa génération. Il est venu pour quelque chose de plus. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier et jusqu'à la fin de l'âge, c'est-à-dire jusqu'à la fin de toute cette période qui, en fait, va terminer l'histoire du monde. La promesse de bénédiction qui était déjà donnée à Adam et Ève et qui était donnée en particulier à Abraham, c'est que les nations seront bénies à travers ce message qui est confié à Abraham et à toute la lignée jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pour cette raison-là que Jésus va prendre des disciples. S'il était simplement occupé à toucher les Juifs de son temps, il n'y a pas besoin de disciples. Une fois qu'il est parti, c'est fini. Mais non, il prend des disciples et ainsi il continue l'œuvre qu'il avait commencé de faire, comme le dit Luc au début des Actes. Il dit que maintenant il va parler de ce que Jésus a continué de faire, n'est-ce pas? Donc il s'adresse ici à Pierre et à son frère André, et puis un peu plus loin, comme je l'ai dit, à Jacques et Jean, son frère, de façon à ce que ceux-là, plus les quelques autres qu'il va ajouter à leur nombre, et ceux qui viendront à travers leur témoignage, afin que ces gens-là continuent l'œuvre que Jésus commence, c'est-à-dire répandre la bonne nouvelle. L'œuvre d'expiation, c'est Jésus qui l'a fait, et Jésus le fait seul. Mais l'œuvre de participer, de répandre l'odeur de Christ, de répandre le message de Christ, ça c'est quelque chose qui est confié à l'Église, qui est confié aux apôtres et ceux qui viennent à la foi à travers leur témoignage. C'est un peu ce dont parle Paul quand il parle de compléter les souffrances de Christ, une question qu'on avait eue il y a quelque temps, n'est-ce pas? Et que je n'ai pas oublié complètement. Donc, Jésus appelle ces gens-là afin de continuer l'œuvre. Ce n'est pas la première fois que Jésus rencontre ces hommes. Il faut qu'on fasse une harmonie des évangiles un peu. Ce n'est pas la première fois. Si on met les évangiles, les récits évangéliques ensemble, on s'aperçoit que à peu près une année avant, il a déjà rencontré ces hommes, ou plutôt ces hommes l'ont rencontré. Au début de l'évangile de Jean, on le voit, et leur vie a été transformée. En effet, juste après le début de l'évangile selon Jean, nous lisons que Jésus était invité à des noces à Cana, et il y est allé avec ses disciples. Donc déjà, il y a quelque chose, il y a un contact qui est là. Ici, en revanche, Jésus appelle ses hommes à consacrer leur vie et à le suivre et à œuvrer pour lui. Plus tard, il répète cet appel et là, plutôt que de quitter leur filet, comme nous voyons ici dans ce passage, hein, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent, dans l'autre passage qui est en Luc 5, quand il les appelle, et là, il a vraiment montré quelque chose à Pierre en particulier, et donc aux autres apôtres, là, il laisse tout et le suivent. Donc, on a cette séquence qui est très importante. Il a, par exemple, Jean et André ont rencontré le Seigneur, et Jean, des années après, se rappelle que c'était, à quelle heure c'était. Ils ont passé toute la journée avec lui. Mais maintenant, c'est un autre appel. C'est l'appel à le servir. Et cette séquence est importante parce qu'elle nous montre que Jésus n'appelle pas à son service ceux qu'il n'a pas déjà appelés en union avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, très souvent, et il faut le dire, il y a des gens qui répondent à servir le Seigneur avant de savoir de venir au Seigneur. « Oui, Seigneur, je veux te servir », mais ils ne sont pas venus au Seigneur encore. Et il est important, encore, une autre chose, de souligner une autre chose. Donc, Jésus appelle à lui, et il appelle ensuite à servir. En fait, les deux choses ne sont pas tellement séparées. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, on est tellement enclin à faire, qu'il nous faut, nous, bien souligner que Jésus appelle à venir à lui, déjà. Mais l'autre chose que nous voulons souligner, c'est que ces hommes qui connaissaient déjà Jésus, d'une certaine manière, ne s'attendaient pas à ce qu'il les appelle à son service. Et là encore, on a quelque chose qui est très important pour aujourd'hui, comme leçon. Ce jour-là, Pierre et son frère, Jacques et son frère se sont levés, ils ont commencé leur tâche quotidienne à lancer leur filet pour les uns, à les réparer pour les autres, et ils n'avaient aucune idée que Jésus allait les appeler. Pourquoi dire cela? C'est important parce qu'il existe une attitude vis-à-vis du service qui fait de l'homme le maître dans la chose. C'est-à-dire Dieu doit m'employer. Et de plus, il doit le faire comme je pense que c'est le mieux, n'est-ce pas? Et en fait, on a renversé les tables dans ce jeu, si on peut dire. Non, ici, Pierre et Jean sont occupés, Pierre et André sont occupés à leurs affaires, et Jésus intervient. C'est une irruption dans une situation tout à fait terrestre. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a tant de gens qui cherchent à servir le Seigneur, qui en fait sont des gens qui sont absolument inutilisables dans le monde. Et le grand problème, c'est qu'il leur faut un poste parce qu'ils ne peuvent pas trouver un travail pour subvenir leurs besoins jusqu'à ce que l'œuvre du Seigneur puisse le faire. Enfin, on peut décliner des tas de choses. La chose importante à garder à l'esprit, c'est que Jésus est le maître. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui décide. Et c'est à l'homme de suivre. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes dans l'Église et dans les Églises si cet ordre, si cette prééminence était respectée. L'annonce publique de l'Évangile n'est pas le seul service ouvert aux chrétiens. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Beaucoup de gens dans l'Église ne sont pas à leur place, car ils veulent la notoriété et la vue publique. Alors, c'est pas si comment horrible à première vue, parce que ces gens-là ne sont pas partis avec ce désir, mais ils arrivent avec cela. Pourquoi? Parce que la chair et le comment la nature humaine prennent le comment les rênes et commencent à tordre tout ça pour recentrer vers l'homme. Ultimement, toute la vie du croyant, même quand il n'est pas vu, est un service, et cela jusque dans les moindres détails. Alors ça change, bien entendu, toute notre notre perspective. Et par exemple, quand on arrive dans un temps, comme par exemple la vieillesse, où on peut se dire, mais maintenant on est inutile. Non, non, on est toujours au service de Christ, si on connaît Christ. Par exemple, et c'est simplement un exemple biblique qui va nous montrer la réalité de cette vérité. Pensons au brigand sur la croix. Il n'a jamais prêché un seul sermon. Sa vie chrétienne, entre guillemets, a été relativement courte, n'est-ce pas? Quel service est-ce que cet homme-là a pu offrir au Seigneur? Il a les deux mains clouées et les pieds. Il ne peut même pas courir dans le chemin, dans la carrière, comme dirait Paul. Et pourtant, quel n'est pas son service à la gloire du Seigneur? Il n'y a aucun docteur en théologie qui a démontré l'erreur du purgatoire, comme cet homme l'a montré, n'est-ce pas? Et simplement en recevant une parole de Jésus, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais, non, mais attendez, cet homme-là, avec tous les crimes qu'il a, mais normalement, il devrait être encore au purgatoire. Mais non, ce jour-là même, il était au ciel. Donc, un homme inutile qui a servi le Seigneur comme aucun homme utile ne pourrait le faire. Donc, vous voyez, c'est très, très important pour nous. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En fait, le brigand n'est simplement qu'une occasion pour le Seigneur de dire la vérité. Et ainsi, la vérité est prêchée jusqu'à la fin de l'âge. Le ministère, c'est-à-dire le service du Seigneur, est donc quelque chose qui est pour ceux qui sont unis à Christ. Peut-être est-il temps de s'examiner pour voir si nous n'avons pas manqué une étape quelque part. Ou si notre chair a pris une étape en otage. Est-ce que je connais celui que je dis servir? Telle est la chose qui est importante dans le contexte ici que nous avons. Et voici que Jésus donc lance un appel ici à André et à Pierre. Cet appel tient en deux parties et il est important de comprendre ce qui est impliqué. Sinon, nous ne manquerons pas un jour ou l'autre d'avancer selon la puissance de la chair. Et si nous le faisons, quand bien même nous le faisons, nous pouvons produire beaucoup de fruits, une quantité inimaginable de fruits, de résultats. Mais ce ne sera que chaume et paille au grand jour du Seigneur. Ça ne résistera pas au temps du feu. En fait, même, ça ne résistera même pas jusque-là. Alors donc, voyons, qu'est-ce que dit Jésus et qu'est-ce que ça signifie? Alors, c'est vraiment simple. Jésus dit, il s'approche de ces hommes et il leur dit, « Suivez-moi d'abord. » Il commence, « Suivez-moi. » Alors, la première chose à dire, c'est que, sous ce point-là, c'est que, ici, nous ne sommes pas en présence du Jésus moderne. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, on voit un Jésus qui est présenté, mais qui est plutôt, comment est-ce qu'on pourrait dire, le boy, le petit serviteur de l'homme. C'est-à-dire, on va dans une assemblée, dans une réunion d'une assemblée, c'est le moment de la prière. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-nous la bénédiction et on te servira. Et puis, peut-être après le culte, on va commencer à causer avec les gens. Et le Seigneur est bon, il m'a vraiment béni cette semaine, il m'a donné ce dont j'avais besoin. Mais quand il ne donne pas, il est mauvais alors? Ça, ce sont simplement des exemples. Mais le Jésus que la Bible présente est tout autre. C'est le Seigneur. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et nous dit Daniel, il n'y a personne qui légitimement puisse lui dire, mais tu fais quoi là? Non, il est souverain. Ici, par exemple, il ne s'approche pas de ses deux frères pour négocier ou pour leur promettre monts et merveilles. Si vous me servez, vraiment, là, vous aurez des trônes à côté de moi. Et puis, vraiment, toi, tu seras à ma gauche et toi à ma droite. Mais même à ma gauche, c'est encore pas mal, hein? C'est vraiment bien. Non, non, il n'est pas là. Ici, nous avons un souverain qui parle. Et quand un souverain parle, même une invitation, c'est un ordre. C'est un ordre. Suivez-moi. Il n'y a pas de discussion. Et non seulement il n'y a pas de discussion, mais la puissance qui vient avec cet ordre est telle que les hommes, ces hommes-là, ils laissent leur filet et ils le suivent. Ils avaient tout à perdre, en fait, en le suivant. Mais l'appel est tel qu'ils le suivent. Et rappelons-nous que, en fait, Pierre et André, ce n'étaient pas des pauvres pécheurs, hein, c'était des gens ordinaires, ils n'étaient pas formés dans la théologie, mais c'était des hommes qui avaient une entreprise assez florissante, hein. Ils étaient quand même dans le chef-lieu de toute la région, ils étaient au bord d'un lac qui était quand même assez rempli de poissons, si on veut croire, et ils avaient, si on en croit Luc 5, il y avait d'autres travailleurs dans l'entreprise. Et même chose avec Zébédée, et donc Jacques et Jean. Hein. Et ils avaient de quoi faire. Ils avaient de quoi faire. En fait, Pierre lui-même n'était pas de Capernaum, mais il était venu à Capernaum de façon à faire ses affaires. Donc, c'est des gens qui avaient tout à perdre là. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange? Ils ont laissé leur filet pour suivre le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange. Selon la tradition, il y a seulement deux des apôtres qui ne sont pas morts, exécutés. Selon la tradition. Alors bon, on va suivre la tradition dans ce cas-là, hein. Les deux, on a Jean, par exemple, qui est mort très âgé, mais probablement déporté. Et puis l'autre des 12 d'origine, qui n'est pas mort, exécuté, en fait, c'est Judas. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent trop imiter Judas, n'est-ce pas? Parce que Judas, vraiment, il n'a pas eu un sort bien enviable, ni au niveau physique, mais encore moins au niveau. Et même Paul qui est l'apôtre, qui est l'avorton, qui est venu en dehors du temps, il n'a pas fait des très, très vieux os, n'est-ce pas? Donc, ces gens n'avait qu'à perdre de ça. Juste une toute petite parenthèse. Nous parlons du fait que Jésus vient en tant que souverain et quand il adresse l'appel, c'est comme un souverain. Il donne la puissance de répondre. Mais Jésus, quand il exerce sa souveraineté, il ne le fait pas au hasard, selon ses humeurs. Comme beaucoup de gens qui sont souverains, entre guillemets, aujourd'hui, le font. Non, il fait tout selon le dessein éternel de Dieu. Lui doit mourir pour accomplir le salut du peuple, puis il doit ressusciter pour leur justification. Et il doit repartir pour préparer une place. Mais l'œuvre d'annonce du royaume doit se poursuivre. Et c'est pour cela qu'il a ses disciples. Et les disciples, ils n'arrêtent pas, encore aujourd'hui, d'en appeler. Quand on va à droite, à gauche, et on entend ce que le Seigneur fait, on se réjouit, n'est-ce pas? On entend qu'un tel a repris le flambeau, et c'est merveilleux. Regardez au chapitre 17 de Jean, dans sa grande prière, ce qu'il dit. Regardez au verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Et maintenant, regardez au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde en mission, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et puis regardez au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et la parole apostolique n'a pas arrêté encore. N'a pas arrêté. Quand nous nous réunissons, ce n'est pas nos paroles que nous annonçons. On ouvre la parole, n'est-ce pas? Et c'est cela. Que dit Jésus? Qu'ordonne le roi? C'est ce que nous voulons voir. Suivez-moi. Alors la chose n'est pas vraiment compliquée. Il n'y a pas des termes vraiment difficiles. Des fois, on va commencer à parler, on est dans une réunion peut-être d'évangélisation, où il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de venir dans nos réunions, alors on va parler d'expiation, de substitution. Là, peut-être il faut qu'on explique. Même la rédemption, ce n'est pas toujours facile pour tout un chacun. Mais ici, suivez-moi, il n'y a pas besoin de sortir un dictionnaire, n'est-ce pas? Un tel ordre ne demande pas une compréhension approfondie ni une réflexion sérieuse. Et le problème, c'est ce que nous cherchons à faire trop souvent pour notre malheur. Non, ici, la seule réponse, c'est l'obéissance. Parce qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14 heures. L'obéissance est une obéissance sans question. Une obéissance sans autre. Et comme je disais, c'est là notre malheur. Trop souvent, on aborde l'appel du maître au service selon la chair. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on voit comment ça peut se faire. Mais il n'y a rien à comprendre. Il suffit de connaître qui est-ce qui lance l'appel. Qui est-ce qui donne l'ordre? C'est lui. Et c'est exactement ça. Beaucoup de gens veulent servir sans connaître qui servir. Mais on ne peut pas se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et parce qu'ils partent à la suite de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment, au bout d'un moment, ils ne comprennent pas et donc ils s'écartent et se séparent de lui. On pense à Jean chapitre 6. Ceux qui ont été rassasiés, ils veulent faire de Jésus leur roi, mais c'est un roi selon ce qu'eux veulent. Ils ne le connaissent pas. Et quand il leur décrit qui il est, il dit, mais ça c'est trop dur. Et ils se séparent de lui. Et si on ne connaît pas véritablement qui est Jésus, je ne veux pas dire des choses au sujet de Jésus, mais Jésus lui-même, alors la chair va reprendre le dessus et on ne va pas tarder à compromettre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui se tienne debout selon notre compréhension à nous. Non, ici, Jésus lance un ordre et c'est bien un appel au service. Il s'est déjà uni à ses hommes, comme nous avons vu, mais c'est lui qui donne les ordres. Et c'est aux disciples d'obéir, comme nous allons voir encore plus dans un moment. Et la chair est incapable de cela. La tâche est trop ingrate, il faut qu'on soit saisi de cela. Suivre Jésus selon ce que Jésus dit, c'est quelque chose qui met à mort la chair. Et c'est quelque chose qui est périlleux, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est une folie pour la chair. Et il nous faut comprendre ça. C'est pour cela que l'union avec Jésus est indispensable. Et donc, c'est là que nos yeux doivent se focaliser. Et donc, quel que soit notre service à tel ou à tel moment, est-ce que nous suivons un ministère? Est-ce que nous suivons un service? Est-ce que nous faisons un service? Ou bien est-ce que nous suivons le Seigneur de gloire? Et lui, il a suffisamment de service, n'est-ce pas? Et si nous voyons que c'est le Seigneur de gloire, alors nous irons dans la puissance de la foi et non plus de la chair. Et c'est la victoire du croyant. La question est réelle. Et c'est pour cela que Jésus dit, suivez-moi. Suivez-moi. Donc, c'est ce que Jésus dit, et il nous faut méditer ces choses. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Rappelons-nous que nous parlons dans le contexte de cette facilité avec laquelle la chair peut tourner les choses à l'envers. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. De quoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'on devient un pêcheur d'hommes? La première chose à dire, au vu de ce texte, c'est que devenir un pêcheur d'hommes n'est pas la responsabilité de l'homme. Les termes sont très clairs. Je vous ferai. Vous, vous me suivez. Moi, je vous fais pêcheur d'hommes. Obéissez, prenez votre place et laissez-moi faire. C'est pourtant simple, n'est-ce pas? Et combien peu on est saisi par la puissance de cette parole. Enfin, moi je parle pour moi-même tout au moins. Hein? Non, la manière dont Jésus parle ici indique comment cela se passe. C'est très intéressant à remarquer. Dans l'original, il ne dit pas « suivez-moi ». En fait, il dit « venez derrière moi ». Alors, on comprend pourquoi M. Segond a traduit comme ça. Hein? Mais il y a une richesse là. « Venez derrière moi ». C'est très instructif. Celui qui suit voit faire celui qui précède. Hein? On parle souvent de mettre les pas dans celui qui est devant nous. Hein? Et c'est exactement cela. C'est donc un appel à imiter le maître. Et on comprend bien la chose dans le domaine de l'apprentissage. Le maître a un apprenti, l'autre va commencer à faire un peu comme il pense, et lui dit, non, regarde-moi, n'est-ce pas? Et c'est ce dont parle Paul, par exemple. Regardez 1 Corinthiens 11, 1, par exemple. 1 Corinthiens 11. Et... Bon, on peut commencer à 1 Corinthiens 10, la fin du passage, là. Hein? Alors, 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà. Hein? On se rappelle les lettres rococo. Hein? OK? Romains, Corinthiens. OK? Regardez dans le contexte de verset 31 du chapitre 10. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Là, il parle du témoignage. Hein? « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Là, il parle de l'évangélisation, si on pourrait dire, n'est-ce pas? « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Vous voyez, on suit ainsi ce que dit Jésus. Et l'apprenti, le disciple, apprend en regardant le maître faire. Et on ne peut pas regarder si on est devant. « Venez, venez derrière moi. » Et c'est là tout le problème de la plupart des formations au ministère. Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que la plupart des, pas toutes, heureusement, mais la plupart des formations au ministère, on cesse de regarder ce que fait le maître. C'est quelque chose de frappant. En quelque sorte, on passe devant le maître parce qu'on sait ce qu'il faut faire. On devient maître à la place du maître. Et cela va même encore plus loin que cela. Vous vous rappelez le moment où le Seigneur annonce ce qu'il va se passer à Jérusalem. Il annonce qu'il doit monter à Jérusalem, on en a parlé il y a quelque temps, hein, et qu'il doit souffrir et il doit être mis à mort. Rappelons-nous cela. Pierre est là et Pierre, il sait. Il sait tout au sujet du Messie. Il y a quelques instants, Jésus lui-même a dit que le Dieu le Père lui-même l'enseignait. Alors, quand même, il est quelqu'un. Alors, lui qui sait, il reprend le Seigneur. Il dit, Seigneur, quand même, à Dieu ne plaise, quand même, tu n'as pas compris, non, tu n'as pas lu le scénario. Et que lui répond Jésus? Deux mots très importants. Arrière, Satan. Arrière, Satan. En passant devant le maître, Pierre, inspiré de Dieu le Père lui-même, il y a quelques instants, est devenu un instrument du diable. En passant devant. Et avec un maître omniscient, on n'arrive jamais à passer devant lui, parce qu'il sait toujours plus que nous. Donc c'est très très important. Suivez-moi, venez derrière moi, venez derrière moi. Mais comment ou en quoi imiter le Seigneur Jésus? On a dit que le disciple est celui qui vient derrière et qui imite le Maître. Mais comment et en quoi imiter le Seigneur Jésus? Oui, il faut que le disciple regarde et imite le Seigneur. Mais Jésus dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Je vous ferai pécheur d'hommes. Et donc, c'est dans la relation et l'union avec Christ que le croyant reçoit l'énergie pour le servir. C'est là que l'image maître, disciple ou maître apprenti devient trop faible, parce que dans la Bible, on parle d'une union qui est décrite en termes conjugaux. Il y a en fait un genre de d'osmose. Alors bien sûr, ça passe dans un sens seulement, hein, mais il y a ce genre comment, oui, ça passe de l'un à l'autre. Par exemple, regardons l'apôtre Paul. Il déploie une activité et une énergie débordantes pour l'évangile. Je l'ai quelquefois dit, mais pour moi, Paul, c'est un peu comme un bouchon de liège, hein. Pour l'évangile, c'est impossible de le garder au fond. Il est toujours en train de repartir. Hein. Il est dans un endroit laissé pour mort. Il est lapidé, laissé pour mort. Il se relève, il va dans la ville et il annonce l'évangile. Et ainsi de suite. Est-ce que Paul est un super-homme? Non, ce n'est pas un Superman du tout. Au contraire, Paul était très très souvent aux prises avec la dépression ou avec l'abattement tout au moins. Non, non. Lui-même, regardez, Galates 2:20, il dit exactement ce qui se passe. C'est des passages qu'on connaît très bien, qu'on cite même pour nous-mêmes des fois. Regardez Galates, ou écoutez, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort, hein, je n'ai pas de vie dont je puisse me glorifier. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez l'union qui est là? Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je connais celui-là, de cette connaissance qui est innée, pas une connaissance qui est accumulée. Vous voyez? Et quelle est l'énergie qui anime Paul? 2 Corinthiens, chapitre 5. Il nous le dit. Et au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Et regardez au verset 11 déjà. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Ce n'est pas que Paul se fait pécheur d'hommes, mais il est en fait dans l'obligation, il est sous la contrainte là. Mais ce n'est pas une contrainte qui vient par la loi. C'est une contrainte qui vient de son union avec Christ. Connaissant donc la crainte du Seigneur. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très intime, là. Très intime. Paul n'est pas en train de se montrer comme un expert pêcheur d'hommes, mais il l'est. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Seigneur. Et c'est vraiment fantastique ce que nous voyons ici. Celui qui suit Jésus est, en quelque sorte, amoureux de lui. C'est là qu'on retrouve la dimension, je dirais, conjugale. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est amoureux de lui. Et comme dans un couple, on devient de plus en plus familier et de plus en plus amoureux de lui. Souvent, on dit, on voit un vieux, vieux couple. Et on dit, en fait, ils se ressemblent de plus en plus. N'est-ce pas? C'est exactement cela. Et celui qui connaît le Seigneur, il ressemble au Seigneur de plus en plus. Et comment cette relation intime s'exprime-t-elle? Oui, le croyant laisse tout et il suit le Maître. Oui, l'amour de Christ se répand dans son cœur et le pousse à marcher dans les pas du Maître. Oui, dans cette relation, la vie et l'énergie du Maître se diffusent chez le disciple. Et nous voyons qu'effectivement, les disciples, les apôtres, les douze, enfin ceux qu'il a appelés au début, sont devenus des pêcheurs d'hommes. Pensons à Pierre qui se lève à la Pentecôte, n'est-ce pas? Et il prêche. Et puis ça recommence quelques jours après, ça recommence quelques semaines après, et ainsi de suite. Et ils vont partout, étant accompagnés par la puissance et la manifestation de l'Esprit. C'est cette union avec Christ. Et quand ils sont devant le Sanhédrin, quelque temps après la Pentecôte, ils sont devant les experts. Des gens qui sont tellement experts qu'en fait, ils ne savent pas, ils n'arrêtent pas de poser des questions. Et les disciples leur tiennent tête. Pas méchamment, mais ils disent, mais c'est à vous de nous dire à qui est-ce qu'il faut qu'on obéisse. Et il est dit que les chefs des Juifs voyaient que c'était des hommes tout à fait ordinaires, ils n'avaient pas étudié, mais ils avaient été avec Jésus. Ils avaient été avec Jésus, n'est-ce pas? Et le Maître avait quitté la gloire céleste pour obéir au mandat de son Père et pour accomplir le salut du peuple. L'obéissance à Dieu, c'est-à-dire à ce qu'il dit, marque le croyant, ainsi qu'un amour pour les élus. Pourquoi? Parce qu'il fait comme le Seigneur. Le Seigneur a quitté le ciel et lui, il va laisser tout derrière s'il voit cela. C'est-à-dire que son union avec Christ lui montre ce que Christ a fait et naturellement, dans cette situation spirituelle, le croyant va faire pareil. Dans l'énergie du Seigneur. Ce n'est pas un amour humaniste pour tous, mais c'est pour le peuple acquis. Le peuple que Christ s'est acquis, dont beaucoup ne le connaissent pas encore. Et c'est pour cela que celui qui est uni à Christ est prêt à partir partout le Seigneur l'appelle. Le Maître vit du service de Dieu. C'est-à-dire Jésus vit du service de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour Jésus, faire la volonté de Dieu, c'était une nourriture, c'était une joie pour lui. Rappelons-nous ce qui se passe au puits en Jean 4, en Samarie. Il est là au bord du puits et il a parlé à la femme et il a touché son cœur. Cette femme est une nouvelle femme. Elle vit en nouveauté de vie. Il y en a d'autres qui vont revenir vers lui. Il s'est assis au bord du puits parce qu'il est fatigué, n'est-ce pas? Très certainement, il a faim. C'est le milieu de la journée. Les disciples reviennent, ils ont de quoi lui donner à manger. « Seigneur, mange, mange !» Il dit, « Mais j'ai une nourriture que vous ne voyez pas. » Et c'est quoi? C'est cela, n'est-ce pas? Il vit du service et de la volonté du Père, c'est sa nourriture. Est-ce qu'il peut en être autrement du serviteur, de celui qui suit, du disciple? Non, non. Et vous le connaissez, nous le connaissons tous. Personnellement, ou même quand on a vu quelqu'un qui a pu présenter l'Évangile, a pu toucher un cœur, a pu même simplement partager la vérité au sujet de Christ, mais on le partage, n'est-ce pas? On est rempli de joie, on est transporté. C'est exactement la même chose. Et Christ était transporté de ça. Le Seigneur se caractérisait aussi par quelque chose qui est très rare aujourd'hui parmi les responsables et souvent les membres religieux. Le Seigneur n'était pas touché par la crainte de l'homme. Combien de fois on le voit se mettre dans des endroits où on dit, mais franchement, ça c'est un kamikaze. Non, il n'a pas la crainte de l'homme. Pourquoi? D'où venait le secret du Seigneur? Parce que nous, on a tous cette crainte par nature. Il faut le reconnaître. Alors, Ésaïe nous le dit. Allons dans Ésaïe, chapitre 11. Vous connaissez ces passages, ou tout au moins ce qu'ils disent. Donc, Ésaïe, chapitre 11. Au début du chapitre, il décrit quel est ce serviteur qui vient. Regardons les versets 2 et 3, par exemple. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Ésaïe 11. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et Ésaïe reprend cela au verset 3. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel va tellement l'imprégner, hein, que c'est comme s'il respire la crainte de l'Éternel. Quel est le résultat? Il ne jugera point sur l'apparence. Ça, c'est la crainte de l'homme, n'est-ce pas? Il ne prononcera pas sur un oui-dire, parce qu'un tel a de la prestance, non? Mais il jugera les pauvres avec équité. Ça, il faut vraiment ne pas toucher par la crainte de l'Éternel pour faire ça, hein? Ne pas craindre l'homme. Est-ce que l'Esprit de Dieu fait avec tous ceux qui, et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait avec tous ceux qui suivent le Seigneur. Regardez Jérémie 32. Ce motif, ce thème de la crainte de l'Éternel qui bannit la crainte de l'homme est très très important et c'est vraiment merveilleux. Jérémie 32, verset 40. Alors, c'est le livre juste après Ésaïe. Jérémie, il est assez gros, hein. C'est pas comme Sophonie, hein. Et on est au chapitre 32, verset 40. Et là, Dieu est en train de parler de ce qu'il va faire avec ceux qu'il touche à salut, son peuple. « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent point de moi. » Mais la crainte de l'homme, elle pousse à s'éloigner de Dieu. Elle pousse sans arrêt à s'éloigner de Dieu. Et celui qui est imprégné de cette crainte de l'Éternel ne s'éloigne pas de Dieu. Malachie, chapitre 2. Alors, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, si on trouve Matthieu, on trouve Malachie. Malachie, chapitre 2. Verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Donc on parle de cette alliance. Ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Vous voyez? Cette alliance de vie et de paix. Vous êtes là? Malachie, chapitre 2, verset 5. OK, hein? Donc là, on parle d'une alliance de vie et de paix. Est-ce qu'on peut parler de crainte quand on parle de vie et de paix? Oui, oui, oui. Crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel, il y a un repos absolument fantastique. Fantastique. Non, le disciple est habité par un esprit, l'esprit de l'Éternel, qui lui donne la crainte de l'Éternel. Et là, il est comme Jérémie, « Je ferai de ton front un silex. » Tu pourras te tenir contre toute cette génération. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous faisons si nous sommes unis avec ce Christ. En fait, la Bible ne connaît pas, le disciple secret. Et si vous voulez noter pour regarder à loisir, Jean chapitre 19, verset 38, il est parlé d'un disciple secret, Joseph d'Arimathée. Mais ce n'est pas vraiment non plus un exemple qu'on veut suivre. Heureusement, le cher Joseph a dû se déclarer à la fin, mais ça lui a pris longtemps. Hein? Voici donc comment on sert le Seigneur. Celui qui est appelé l'est à le suivre, à venir derrière lui dans l'obéissance. Et cette obéissance ne questionne pas. Elle ne pose pas de conditions. Et le Seigneur communique sa vie par cette union profonde et mystérieuse qui le lie à son disciple. Il n'y a pas de disciples qui ne sont pas liés avec le Seigneur. Et on comprend cela, même en termes humains. Par exemple, on va voir un artisan, un expert. Et très très souvent, on sait qui a été son maître, parce qu'on voit des traces, n'est-ce pas ? Ça va même jusqu'à des points que maintenant, on ne sait pas si c'est vraiment Léonard de Vinci qui a fait la chose ou si ce sont des disciples, parce que les disciples, ils avaient la patte du maître. Non, il y a cette union qui est très importante. Et cela nous montre que s'il y a une diversité de ministères, une diversité de services, aucun disciple de Christ n'est exempt de service. Pourquoi ? Parce que le service, c'est la vie de Christ qui s'exprime dans la vie du disciple. Une vie remplie de compassion pour les pécheurs, ça c'est la vie de Christ. Et vous vous rappelez comment il était décrit ? Christ, il voyait ces hommes et ces femmes qui étaient là à le suivre, qui en avaient même oublié de manger. Et comment est-ce qu'il les voyait ? Ces gens qui vont le rejeter, finalement. Moins de 24 heures plus tard, il ne marche plus avec lui parce qu'il a des paroles dures. Comment est-ce qu'il les voit ? Il est ému de compassion parce qu'il les voit comme des brebis sans berger. Et ému de compassion, ça veut dire que c'est un mot très, très graphique. Ses entrailles se crispaient. Et le disciple peut-il être moins que cela ? Non, c'est absolument impossible. Une vie de sacrifice, une vie qui ne compte pas le coût, mais une vie qui voit la réalité terrible de Dieu plus que les menaces des hommes. Oui, les hommes vont se moquer de moi, mais si je n'annonce pas Christ, c'est l'enfer. Vous voyez ? Une vie qui se donne entièrement au service du royaume, sans chercher son propre avancement. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est impossible. Et c'est pour cela qu'il nous faut continuellement revenir à ce que dit Jésus dans notre texte. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Et il ne va pas s'arrêter. Qu'il nous donne la grâce de comprendre et de vivre ces choses. Amen.